Alors, la paracha s'appelle Chayé Sarah, les vies de Sarah, la vie de Sarah, mais en fait, ça parle essentiellement de son enterrement. Et cette paracha, elle est donc située après, juste après que, dans la paracha précédente, on nous ait présenté la Akedah, c'est-à-dire donc le sacrifice de Yitzhak. Et le problème de cette la juxtaposition ici, elle est rendue significative par les Chachamim qui expliquent que, étant donné que la mort de Sarah a été causée, en fait, par quelque chose qui tourne autour de la Akedah, en tout cas. Il y a plusieurs midrashim à ce sujet, sorte de midrashim plus classiques qui disent que, en réalité, c'est le Satan qui était pas content parce que, lui, il avait espéré que Avraham ne réussirait pas l'épreuve de la Akedah et il a réussi l'épreuve. Donc, il est allé chez Sarah et il a commencé à raconter à Sarah. Il lui a dit, voilà, Abraham, il était en train de sacrifier ton fils ou votre fils, etc. Et il n'a pas terminé son récit que Sarah en est morte. Sarah, elle est morte parce que il a raconté quelque chose. Et il n'a pas dit qu'en vérité il avait été finalement sauvé. Il n'a pas dit du tout que ça ne s'était pas fait, que Yitzhak était vivant. Mais elle n'a pas supporté même l'idée. Mais il y a un midrash un peu plus intéressant, enfin un peu plus surprenant, si vous voulez, qui met en scène Yitzhak Avinu lui-même, qui viendrait raconter à sa mère ce que son père voulait lui faire. Et là aussi, l'idée même qu'Abraham ait voulu faire une chose pareille, même si son fils est là, il est devant elle et il est vivant, elle en meurt quand même. Il y a évidemment un problème qui se pose tout de suite, c'est qui s'était posé sur le récit de la Akedah, qui est fait, c'est pourquoi est-ce que Abraham n'a pas dit à Sarah ce qu'il allait faire? Alors là-dessus, il y a un Tanhuma, un Midrash Tanhuma, qui dit le Midrash Tanhuma, il est aussi basé je reviens un petit peu en arrière sur la Akedah. Dans la Akedah, il y a deux problèmes. Il y a le problème d'Abraham et il y a le problème d'Yitzhak. Yitzhak a 37 ans, donc il était exclu que Abraham puisse faire la shrita de son fils si son fils n'en était pas d'accord. Alors là-dessus, il y a deux raisonnements standards pour expliquer la chose. Il y a un premier récit, en fait, qui explique comment on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette épreuve d'Abraham? L'idée étant que, au fond, les épreuves, ce sont des épreuves que l'homme lui-même attire sur lui, ou c'est, on peut dire, c'est l'homme lui-même qui se met dans les épreuves. Les épreuves, elles viennent pas comme ça de façon totalement extérieure. Elles sont extérieures, mais l'homme s'y est mis d'une certaine façon. Et en particulier celle-là. Alors, le récit, il est comme ça. Comme vous savez, Hachem a fait une alliance avec Abraham. l'alliance entre les morceaux, comme on dit, Ben Abtahim, grande alliance, un brit, ça s'appelle un brit, cette alliance. Et ensuite, la Torah nous raconte que Abraham a vécu, qui a vécu sur le territoire des Plishtim, c'est-à-dire le territoire d'Abimelech. Et à un moment donné, Abimelech, il est venu le voir et il lui a dit, finalement, je voudrais qu'on fasse alliance. C'est toujours l'idée que quand il voit, ce sera avec Yitzhak la même chose, quand il voit que ça marche bien, alors il veut être ami avec ceux avec lesquels, pour lesquels ça marche bien, les affaires vont bien. Alors, il lui dit, bon, de toute manière, Abraham, il a une espèce de dette quand même parce qu'il a habité sur le territoire de David Meller. Il lui dit, et Abraham accepte et il fait alliance avec Avimelech. Et cette alliance, elle s'appelle aussi Brit. Et on a l'impression, Chazal, qu'Hachem n'a pas du tout apprécié que ce mot Brit puisse à la fois être utilisé pour désigner une alliance entre Abraham et Hachem et aussi pour désigner l'alliance entre Abraham et Avimelech. Quelque part, il y a cette idée que si toutes les deux s'appellent Brit, alors quelque part, c'est comme si on avait dégradé l'alliance avec Hachem au niveau d'une alliance avec un roi quelconque. Et alors, c'est là-dessus que pour réparer, en quelque sorte, pour qu'on remette l'alliance avec Hachem à un autre niveau que celle passé avec Abimelech, Hachem lui demande tout. Je te demande tout ton futur. Dans les Midrashim qui parlent de la discussion d'Abraham avec Hachem après la Akeda, alors Abraham lui dit, mais je sais que, bon, j'avais un gros problème. D'un côté, tu me dis qu'Ibe Yitzhak Ikarel Chazara, tu me dis que Yitzhak sera ma descendance, et après tu me demandes de le sacrifier. Il y a quand même une incohérence. Et en plus de ça, tu me demandes de faire quelque chose que j'ai passé ma vie à dire aux gens qu'il ne fallait pas le faire. Sacrifier ses enfants, c'était une pratique suffisamment courante pour que la Torah ait besoin de dire que bon, tu ne feras pas de sacrifice au Molech. Bon. Et voilà que sur ces vieux jours, Abraham, il fait la même chose. Et donc, on ne comprend pas non plus comment Yitzhak, d'accord, il a confiance en son père, mais il y a quand même un doute. Est-ce qu'il n'est pas devenu sénile? Il est vieux maintenant et tout à coup, il fait ce que tout le monde fait dans le coin, quoi. Alors, concernant l'attitude d'Yitzhak, il faut se rappeler, pour mémoire, que quand on appelle Akedat Yitzhak la ligature d'Yitzhak, Yitzhak a été effectivement, il a été empaqueté, enfin, il a été ligoté, quoi, disons. Mais c'est lui qui l'a demandé. Parce que Yitzhak, quand il a compris ce qui se jouait, il a compris qu'il allait être un korban ola. Et dans un korban, on fait la shrita. Et comme vous savez, la shrita, que ce soit shrita pour les korbanotes ou shrita pour la viande que nous mangeons, que mangent ceux qui ne sont pas complètement végétariens, si la shrita est mal faite, la bête n'est pas cachère. Donc dans un korban, une shrita qui serait mal faite, ben, le korban n'est pas kasher et donc c'est plus un korban. Donc Yitzhak dit, ben, si la shrita est pas bien faite, tu m'auras tout simplement tué et tu n'auras pas fait de moi un korban. Donc comme je peux pas te garantir que je ne bougerai pas, il faut que tu me ligotes. Alors pourquoi Yitzhak accepte? On peut dire simplement il accepte parce qu'il a confiance en son père, mais il y a quand même des midrashim qui sont allés quand même chercher un peu plus loin. Et qui rapporte, l'idée, cette histoire est relativement connue. Il y a évidemment des conflits permanents entre Ishmaël et Yitzhak, et qu'à un moment, Ishmaël dit à Yitzhak, écoute, toi, on t'a fait la Mila à 8 jours, on t'a pas demandé ton avis, etc. Il n'y a aucun mérite à avoir eu la Mila à 8 jours. Moi, j'ai eu la Mila à 13 ans, et à 13 ans, j'ai accepté, donc moi, j'ai fait une grande chose. Et donc, il a poussé Yitzhak à réagir, et évidemment, Yitzhak a dit, mais moi, c'est pas simplement un morceau de peau que je suis prêt à sacrifier pour Hachem. Pour moi, s'il me demandait la vie, je la lui donnerais. Eh bien, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a à la fois Abraham, à cause de l'alliance avec Abimelech, et à la fois Yitzhak, poussé en quelque sorte à ça par Ishmaël, qui accepte, ou qui, on a l'impression, se propose quasiment pour cet Akeda, pour les deux. Mais maintenant, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas dit à Sarah? A priori, par exemple, en Nevoa, on va le dire plus loin, mais on l'a déjà dit plus haut, pardon, mais Sarah est plus grande que qu'Abraham en prophétie. Alors, bon, il est vrai que Hachem a parlé à Abraham, il n'a pas parlé à Sarah. Mais bon, c'est a priori, ce ne sont pas les femmes qui font les corbanotes. Et puis, c'est Abraham qui a fait l'alliance avec Abimelech, c'est pas Sarah. Alors, il y a un Midrash, Tanhuma, qui dit les choses de façon intéressante. Il dit, OK, il a rien dit à Sarah, mais comment il va expliquer le fait qu'il s'en aille quelques jours avec Yitzhak? Il faut lui dire quelque chose à Sarah. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, voilà un peu voilà comment le Midrash a perçu la chose. Le Midrash dit que Avraham, un beau jour, il dit à Sarah, on va faire un grand, grand festin. Sarah, elle dit, OK, d'accord, mais pourquoi ce festin? Elle dit, écoute, on a eu un enfant, on était très âgés, on a eu un enfant, c'est miraculeux, etc. Et bon, ça, il se développe bien et tout. Il faut faire une fête pour ça. Bon, on a fait une fête, ils ont bien mangé, ils ont bien bu. Et à la fin de la fête, Abraham a dit à Sarah, écoute, voilà, Yitzhak maintenant, il est à un âge où il faut qu'on l'initie un petit peu. Donc, je vais aller avec lui quelques jours pendant lesquels je vais l'initier, faire son initiation, c'est-à-dire, bon, c'est dans les tribus, etc., il y a toujours initiation des garçons, peut-être pas des filles en général, mais voilà, peut-être l'initiation des filles, elle se fait avec les mères, mais il y a une initiation, une espèce de bizutage ou enfin, toutes sortes de choses qu'on fait faire aux garçons pour montrer qu'ils sont vraiment, ils deviennent des hommes et qu'ils vont jouer leur rôle dans la tribu en question. Et donc Abraham, sans avoir précisé ce que serait l'initiation, mais bon, comme c'était le but de l'exercice, comme on avait bien mangé, on avait bien bu, il lui a dit ça et ça a passé. D'accord. Donc, il faut faire attention si un jour, on vous dit on va aller faire un festin, etc. Regardez peut-être ce qu'on vous demandera après. Sarah s'est pas méfiée. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé. Et voilà, Sarah en est morte, en fait. Et le Passouk nous parle, donc il nous dit, on va pas entrer là-dedans, sur les 127 ans de vie de Sarah. Et vous savez qu'il y a un Midrash qui dit que Sarah est morte avant Abraham, parce qu'elle a appelé le jugement d'Hachem entre elle et Abraham. Vous savez, quand à un moment donné, Hachem a fait des promesses à Abraham Avinu, Et Abraham lui a dit, mais qu'est-ce que tu... C'est quoi ces promesses? J'ai pas d'héritier. Celui qui va hériter de mes affaires, c'est mon... C'est mon esclave, en fait. C'est lui le gestionnaire. C'est lui qui va être l'héritier. Alors Hachem, donc il a quasiment demandé à Hachem, mais pourquoi tu ne me donnes pas un enfant, quoi, quelque part? Et il a eu un enfant avec Agar, effectivement. À ce moment-là, il y a eu une dispute entre Abraham et Sarah. Et Sarah, elle lui a dit, Hamasi Alecha, elle lui a dit, je suis en énorme colère contre toi. Parce que, au lieu de dire, je n'ai pas d'enfant quand Hachem t'a fait la promesse, tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant. Et si tu avais dit, nous n'avons pas d'enfant, de même qu'Hachem t'as répondu et t'as eu un enfant, eh bien là, nous aurions eu ensemble un enfant. Donc, je t'en veux énormément. Et elle a dit, Yishpot, elle a demandé le jugement. C'est un ordalie, ça veut dire, elle a demandé un jugement d'Hachem entre Abraham et elle. Et là, bon, c'est bien connu que quand on demande un jugement, alors on est d'abord jugé. Celui qui demande un jugement, on dit... D'abord, regardons qui fait la demande, celui qui demande le jugement, qui sait, etc. Et personne ne tient évidemment le coup si on se met à regarder tout ce qui se passe dans les coins, etc. Donc, finalement, Sarah va mourir avant, elle est bien avant Abraham. Bon, le deuxième verset. Qui décrit donc, qui dit, on n'a pas dit jusqu'alors, qui dit, Vatamot Sarah Bekiryat Arba, Sarah est morte à Kiryat Arba, et Hebron, dans le pays de Canaan. Et dans le même verset, il dit, Vayavo Avraham, Vispod le Sarah Velifkota. Immédiatement, on nous dit, dans le même verset, la mort, et Avraham vient pour faire l'éloge, le hesped, donc l'éloge funèbre de Sarah, et pour la pleurer. Alors, les Chachamim, évidemment, ils se demandent, Vayavo Avraham, d'où est-ce qu'il vient? D'où vient-il? Alors, il y a dans le Midrash deux réponses intéressantes. La première est assez étonnante. La première dit, Avraham vient de l'enterrement de son père, Terach. Là-dessus, le Midrash dit, mais ça marche pas du tout. L'enterrement de Terach, c'est 2 ans avant celui de Sarah. Donc, tu peux pas dire qu'il vient à l'enterrement de Sarah directement de l'enterrement de son père. Ah, il vient du Hara Moria. Venir du Hara Moria, c'est-à-dire venir de la Akedah. Donc, quelque part, bien que le texte ne dise pas exactement ça, parce que Avraham, il a transité par Beersheba, après la Akedah. Mais là, on dit, il vient de Moria, donc, comme si on disait, Sarah est morte et Abraham est venu parce que, quelque part, c'est à cause de lui qu'elle est morte. Et j'avais pensé que cette drôle d'idée du Midrash de dire qu'il vient de l'enterrement de Terach. Le Rav qui dit qu'il vient de l'enterrement de Terach, il sait très bien que l'enterrement de Terach a eu lieu 2 ans avant. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Alors, je crois que c'est peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça. L'histoire de l'enterrement de Terach. Ici, ce Midrash pense qu'Abraham est allé enterrer son père. Vous vous souvenez probablement. Vous savez probablement que Terach est parti avec Abraham, etc. Il est parti d'Our Kasdim en direction d'Eretz Canaan. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, ils se sont arrêtés en chemin à Haran, quelque part en Syrie, là. Ils sont restés là-bas. assez longtemps. Ensuite, eh bien, Abraham, il a entendu Lech Lecha et il a quitté son père. Donc, d'une certaine façon, Abraham a abandonné son vieux père. Et ça, c'est pas très glorieux. Et la Torah n'a pas voulu que, en tout cas, en première lecture, on voit tout de suite qu'Abraham a abandonné son père. Donc, la Torah, elle nous dit la mort de Terach avant le Lech Lecha. À la fin de la parasha d'avant, Noach nous dit, va, Terach est mort. Mais en fait, chronologiquement, le Lech Lecha est antérieur à la mort de, à la mort de Terach. Seulement, la Torah a voulu que, bon, elle n'a pas voulu nous tromper, mais elle n'a pas voulu qu'en première lecture, tout de suite, on voit qu'Abraham a abandonné son vieux père. Mais malgré tout, on peut penser qu'à partir du moment où Abraham a compris en réalité, il était un peu fautif dans la mort de Sarah. Alors, tout à coup, probablement, il a pensé, mais j'ai quand même abandonné mon père aussi. Donc, quelque part, les deux, bon, il n'est pas fautif de la mort de Terach. Mais malgré tout, Terach est probablement mort dans son coin, même si ensuite Abraham est allé enterrer. Ce que suppose en tout cas celui qui parle comme ça dans le Midrash. Bon, mais quand même, ça probablement ça a fait tilt dans la tête de d'Avraham Avinu. Et quelque part, on peut dire que oui, quand il vient avec l'idée de. C'est vrai qu'il vient à cause de l'Akedah, mais en même temps, il vient aussi. Et si tu veux regarder quelque chose qui est antérieur encore, il y a quel déjà. Comme s'il y avait une parenté entre le fait d'abandonner son père et de ne pas avoir dit à Sarah ce qu'il allait faire, ce qui, effectivement, paraît comme étant une des raisons de la mort, enfin une raison de la mort de Sarah. En tout cas, il vient pour la pleurer. Et puis immédiatement, après avoir fait son espède, enfin, immédiatement après l'avoir pleuré, il s'est occupé de l'enterrer. Et alors la suite du texte, c'est les négociations pour acquérir une tombe. Il demande une tombe. Et alors, il y a la fameuse phrase où Abraham dit « Ger v'toshav anochi imachem »« Je suis avec vous, mais je suis à la fois étranger et résident. » Normalement, quand on n'est pas les deux choses. Quelque part, si on devient un résident, alors on n'est plus tellement étranger. Mais peut-être que on doit penser qu'on peut être à la fois étranger, même si ensuite on s'est installé à un certain endroit et que on participe à la vie de l'endroit comme un toshav, comme un résident, mais il faut pas oublier qu'on n'est pas, on est étranger. Mais chez Abraham, c'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Rashi explique. D'abord, Rashi dit effectivement, on peut le lire au sens premier. Guerre, mais Retzacheret, je viens d'un autre pays, c'est vrai qu'il vient de Mésopotamie, il n'est pas du coin en fait. Et puis, Venitiashavti Imachem, je me suis installé avec vous. Donc à la fois, voilà, je suis des vôtres, mais je suis conscient que je suis étranger. Ça, c'est le pshat. Mais le Midrash dit autrement. Le Midrash dit, Rashi le ramène, Im tirtzu areiniger, vim lav, eye toshav et ena minadin. Sheamar li akadosh baruch hu lezaracha eten et haaretz hazot. Dire, dit Rashi, Il leur a dit, si vous voulez, si vous en êtes d'accord, si vous me donnez cette tombe que je demande, ils ont dit plus généralement, si je peux faire ce que j'ai à faire sur cette terre, alors j'ai pas besoin d'être propriétaire de la terre. Ça m'est égal que vous mettiez votre drapeau, Bnechet, là, sur le territoire, là-bas. Là, ça me gêne pas. À condition que je puisse faire sur cette terre ce que je dois y faire. Mais si vous n'en êtes pas d'accord, alors je la prendrai, cette terre. C'est-à-dire, ça veut dire, je ferai la guerre et je vous enlèverai cette terre parce qu'en fait, elle est à moi. Ça veut dire, je suis d'accord de payer, je vais acheter la terre, je vais acheter la concession, je vais acheter la caverne en question, comme si je n'en étais pas le propriétaire. En réalité, elle est à moi. Je veux bien jouer le jeu, ça me dérange pas. C'est très important, peut-être que ça veut dire effectivement, il faut à la fois arriver à faire cette balance, nous qui sommes en galoute, entre. Voilà, on a des choses à faire, puis en même temps, on n'est pas chez nous, quoi. On doit aussi tenir compte des réalités économico-politiques du pays en question. Et alors, bon, il y a toute une discussion entre le propriétaire qui est Ephron, propriétaire de la caverne, mais qui, bon, il y a deux choses, c'est les terrains patrimoniaux pour Ephron. Donc il peut pas comme ça les vendre. C'est pas convenable de les vendre. Alors, il va encore demander en quelque sorte à Abraham d'être son complice. Il va dire, te les donne en cadeau. Donner, on peut. Grand Seigneur, je te donne. Et Abraham, il dit, effectivement, tu me donnes. Je te paye, mais c'est seulement que tu me donnes. On la joue comme ça. Toi, tu es le généreux donateur, et moi, je te donne. Je te paye. Les Chazal disent qu'il lui demande un prix absolument exorbitant, et Abraham le paie avec une monnaie sonnette et trébuchante. Les Chazal disent que l'Eshkalim, il a demandé 400 shekels, mais chaque shekel qu'il demandait, c'est, je crois, ça vaut 25 000 shekels standard, quoi. Parce que c'était des pièces qui pouvait être utilisé dans tous les pays, enfin tout le pays. Aucun marchand n'allait discuter la qualité de la pièce en question, etc. Donc il lui vend ça à un prix absolument exorbitant, avec toujours une question que l'on peut poser, pourquoi est-ce qu'Abraham a le droit de gaspiller de l'argent finalement? Il veut absolument cet endroit-là, peut-être s'il était allé ailleurs, il aurait pu avoir une terre à un prix normal. Enfin, nous, on sait, et Abraham savait que dans cette caverne était enterré Adam Harishon et Chava. Il semble que Ephron n'ait pas su ça. Ça aussi, ça pose un problème. C'est-à-dire, il est en train d'acheter quelque chose et à quelqu'un qui, bon, c'est une caverne. Mais lui, il ne sait pas que cette caverne a tellement d'importance. Ou alors, on peut dire qu'il s'en fiche. Je veux dire, peut-être que, bon, d'accord, il y a un vieux qui a écrit qu'il est enterré là-bas. D'accord, qu'il soit enterré là-bas, ça ne me dérange pas. Ephron, bah, il n'est pas obligé d'accorder une valeur particulière au fait que Adam et Chava, en plus, il faut savoir que c'est Adam et Chava. C'est peut-être, je ne sais pas si le. S'il y avait encore un petit écriteau, Adam, Chava, etc., avec un poème pour dire tout ce qu'ils ont fait, etc., on ne sait pas. Et ensuite, donc, le chant. Alors, bon, Ephron, il ne peut pas, séparer la caverne du champ. Donc Abraham, il achète tout le champ et à un prix complètement exorbitant, comme je vous ai dit. Et puis, voilà, c'est fait. Alors, Abraham se pose, dit le Midrash, il se pose une question, enfin, il ne se pose pas une question, mais il se fait une remarque à lui-même. Il dit, mais finalement, si j'avais fait ce que je m'apprêtais à faire, si j'avais effectivement tué Yitzhak, il n'y avait plus de futur. Mais c'est un peu de ma faute. Parce que si je m'étais occupé de marier Yitzhak, même si j'avais tué Yitzhak, il y aurait peut-être eu des enfants qui auraient pu continuer le travail. Et donc, il va se rattraper. Alors, il faut savoir, ça fait partie des obligations d'un père à l'égard d'un fils que de s'occuper de le marier. Et donc, il va s'occuper de marier Yitzhak. Le fait que il va envoyer son gestionnaire, Eliezer, pour faire ça. Et la question, c'est, Yitzhak Avinu, il a 37 ans à la Akedah, donc il doit peut-être 38 ans maintenant. Pourquoi il ne va pas lui-même chercher une femme à 38 ans? Il doit pouvoir chercher soi-même son épouse. Il n'est pas obligé de s'en remettre à quelqu'un qui va aller choisir une épouse. Le problème, c'est qu'Abraham Avinu ne veut pas, il veut pas d'un mariage avec une Cananéenne. Il faut se rappeler que Cnaan est maudit par Noar. Quand Noar s'est aperçu de ce que lui ont fait, ce que Cham et Cnaan lui ont fait, il a maudit Cnaan. Et Abraham, qui sait qu'il est béni, Hachem lui a dit qu'il était béni, il veut pas d'alliance avec un maudit. Donc, il ne veut pas qu'Yitzhak épouse une Cananéenne. Et du coup, il lui dit, tu vas aller dans ma famille. Mais la famille, c'est en dehors d'Eretz Israël. Or, le statut d'une Ola, c'est vrai ensuite, essentiellement. Normalement, un homme n'est pas une Ola, mais une hola, c'est-à-dire un corban qui va être approché comme holocauste, c'est-à-dire qui va être complètement consumé. Quand une hola, c'est un agneau, on lui fait la shrita, on va le dépecer, on le coupe en morceaux et on le grille, on le brûle entièrement. Et le statut de hola, c'est un degré de kdusha. Et ce statut-là impose de ne pas sortir des limites d'Eretz Israël. Donc, Yitzhak Avinu ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas aller lui-même chercher une femme, puisqu'il fallait aller la chercher en dehors d'Eretz Israël. Alors, Abraham, bon, il y a une procédure, il envoie Eliezer, chargé de toutes les richesses. Eliezer, ça veut dire Eliezer et des tas de gens qui vont l'accompagner, bien sûr. Eliezer n'est pas parti tout seul. On verra après. Il dit les gens qui sont avec lui, on parle, la Torah, elle parle des gens qui sont avec lui. Et donc, il envoie Eliezer. Et bon, Eliezer, il sait pas comment il va faire. Alors, il réfléchit, il pense, la caractéristique d'Abraham, c'est le chesed. Donc, il va chercher une fille qui peut bien entrer dans une famille de chesed. Donc, une fille dont on voit qu'elle a une bat chesed. Bat chesed, voilà. Et donc, il va se définir un test pour choisir et il va veiller à ce que, enfin, son test, c'est est-ce que c'est une balade recette? Alors voilà, il a dit, voilà, comme vous savez, la fille qui, c'est un pays dans lequel ce sont les filles qui viennent puiser de l'eau. Après, on va voir si elles sont aussi des bergères. Et il dit, bon, la fille à laquelle je demanderai de me donner à boire, qui acceptera et qui me dira, je veux aussi donner à boire à tes chameaux, c'est une fille qui est une Baalat Chesed, et c'est celle-là qui sera la femme du fils de mon maître. Alors, Chazal disent que fait partie de ceux qui ont dit des choses, qui ont mal dit les choses. Chazal demande, qu'est-ce que tu aurais fait si la fille était, je ne sais pas, malade, handicapée, etc. Tout ça, tu aurais pris. Bon, alors Hachem lui a bien répondu. Hachem l'a sauvé, quoi. Il lui a répondu, il a envoyé quelqu'un de bien. Bon, et puis en plus, il a vu que cette fille non seulement était une Baalat Chesed, mais elle était aussi intelligente. Parce que, en fait, de faire boire les chameaux après que Eliezer ait bu, ça permet de jeter l'eau dans laquelle Eliezer a bu, sans le vexer, mais qu'il faut bien jeter parce que on le connaît pas, ce bonhomme. Bon, il avait probablement pas le Covid, mais il pouvait aussi avoir autre chose. Il y a toutes sortes de maladies dont il pouvait être porteur, et on peut pas ramener à la maison de l'eau dans laquelle a bu un monsieur qu'on connaît ni Dave ni Adam. Mais si on fait boire les chameaux, ensuite c'est normal que on récure la cruche, etc. Donc, c'était intelligemment fait, c'est-à-dire, elle n'a pris aucun risque et elle ne l'a pas vexé. Bon, alors il décide, bon, c'est assez intéressant, il lui fait des cadeaux avant d'avoir demandé qui elle est. Bon, il ne sait pas du tout de quelle famille elle est, rien du tout, il lui donne des somptueux cadeaux. Et puis il demande l'hospitalité, elle lui dit, oui, on a tout à fait de quoi t'offrir l'hospitalité, et aussi on a des parkings là pour tes voitures, enfin pour tes chameaux. Et donc tout ça, ça va, et on a des bornes électriques ou des pompes à essence pour te ravitailler tes véhicules. Et tu peux aussi dormir. Et les gens qui sont avec toi aussi. Alors ensuite, on met en scène le camarade Lavan, le frère de Rivka, qui lui, quand il a vu qu'il y avait de l'argent là-bas, il s'est précipité, il a dit que c'était lui qui avait tout préparé, alors que c'était évidemment un mensonge. Alors, le but de l'exercice, c'est que on va se débrouiller pour faire main basse sur cet argent, surtout sur toutes les richesses que Eliezer transportait avec lui. Alors, pour ça, on utilise les méthodes standards, on va l'empoisonner. Il lui prépare à boire. Et bon, Hazal dit que c'est le malheur Gabriel qui a échanger le verre de préparé pour Eliezer avec celui de Bethuel, c'est Bethuel qui est mort. Et on voit le lendemain, il n'y a plus de Bethuel. Alors maintenant, bon, il y a toute une histoire sur laquelle je n'ai pas envie maintenant d'entrer plus avant. Finalement, Rivka accepte de partir. Il y a le Midrashim qui dit qu'elle a même ses parents qui ont espéré qu'elle serait effrayée. Ils lui ont demandé, tu partiras avec ce bonhomme-là? Et elle a dit, non seulement je partirai, mais même si vous n'êtes pas d'accord, je partirai quand même. Bon, c'était déjà, je sais pas, eux, ils ont peut-être considéré que c'était une petite peste. Elle a 3 ans, elle les a envoyés promener. D'accord, c'est un peu gonflé aussi, je veux dire, cette petite fille-là qui. En bref, nous, on est tout plein de. C'est très élogieux à son égard. Enfin. Et effectivement, elle revient avec Eliezer, etc. Et quand elle arrive dans le voisinage de là où était Yitzhak, il y a une rencontre. Elle demande, elle le voit de loin, elle dit, elle demande à Eliezer, c'est qui ce bonhomme-là? Et alors il lui dit, c'est curieux parce qu'Eliezer ici, il dit, c'est mon maître. Comme si Yitzhak était son maître. Alors que son maître, c'est Abraham, c'est pas Yitzhak. Il dit, c'est mon maître. C'est pas... Par la suite, lui s'est toujours présenté comme étant Eved Abraham. Et mon maître, dans tout le récit, c'est sans arrêt. Mon maître, mon maître. Mais là, tout à coup, il dit de Yitzhak qu'il est son maître. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que quand ils sont partis, finalement, ils ont essayé de retenir qu'elle restait un peu, etc., dans l'espoir de finalement réussir quand même à tuer Eliezer et à faire main basse sur les. Donc, mais bon, il a dit non, 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 mais, non, je m'en vais, Hachem m'a fait réussir, je peux pas rester plus longtemps, je dois partir. Et ils ont donné une bracha à leur sœur. Lavan, d'accord, et sa mère, ils ont donné une bracha à Rivka, ils lui ont dit, Achoteinu at, Ayi il al fer vava, Vira zaracha es shar oivav, shar sonav, pardon. Et curieusement, c'est la bracha que nous, encore aujourd'hui, nous donnons à toutes les femmes qui vont sur la choupa. On n'a rien trouvé de mieux que la bracha de Lavan pour sa sœur. C'est incroyable. Alors qu'on ne considère pas du tout cette bracha comme étant très bonne, parce que par la suite, on va voir qu'une des raisons pour lesquelles Rivka ne sera pas enceinte très rapidement, il y a comme toujours qu'Hachem veut entendre la prière, mais aussi pour qu'il soit bien clair qu'elle n'est pas enceinte grâce à la bracha que Lavan lui a donnée. La bracha, elle n'a pas servi. Donc on considère que la bracha n'est pas bonne, venant de Lavan. Donc si on l'a pris, ça veut dire qu'on a dissocié la bracha elle-même de celui qu'il a inventé et qu'il a utilisé là donc pour sa sœur. On a gardé la bracha et on a acheté le compositeur, enfin l'auteur. J'en sais rien, je sais pas pourquoi c'est cette bracha. Bon, c'est une bracha de puissance, de à la fois une puissance numérique, devenir très nombreuse, et puis aussi d'une puissance, d'une domination. Donc c'est quand même, une grosse affaire que le clan Israël, qui est donc, descendant de Rivka, il descend d'une femme qui a reçu une bracha d'un rachat d'amour. Alors, je reviens à la rencontre. Yitzhak, il était où? Il vient, ba mibo, be'er la chayroi. Alors, fait-il chez vous certainement? Ber Lachaïroï, le puits du vivant qui me voit, c'est un puits qui a son nom de qui? De Agar. C'est Agar qui l'a nommé comme ça. Qu'est-ce que Yitzhak va faire cet endroit-là? C'est son endroit de prière. Où est-ce qu'il va prier là-bas? Donc, ils ont toutes sortes de choses étranges. J'aurais compris qu'il aille prier dans la tente de Sarah, s'il doit aller à un endroit où une femme a prié, je sais pas. Mais non, il va à Ber Lachaïroï, il va là-bas. Là où Agar a rencontré effectivement des anges, etc., qui lui ont donné la bracha pour Ishmaël. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce que c'est à voir avec le fait que, est-ce qu'il veut récupérer quelque chose de la bracha d'Ishmaël? À la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi il va justement à cet endroit-là. Alors, Rachid dit que non, c'est pas du tout qu'il est allé prier là-bas. Rachid dit, il est allé là-bas parce que Agar était là-bas. Elle est encore retournée là-bas après. Et il est allé chercher le Havi Agar le Avram Aviv Shisena. C'est le monde à l'envers. C'est le fils qui s'occupe de trouver une femme pour son père. Peut-être qu'on peut ici faire une remarque. La dernière fois qu'Hachem a parlé avec Abraham, c'est quand il lui a donné l'ordre de la Akedah. Par la suite de toute sa vie, toute la fin de la vie d'Abraham, Hachem ne lui a jamais parlé. Et d'une certaine manière, quand il descend du Moria, le patriarche, désormais, c'est Yitzhak. Ce n'est pas Abraham le patriarche. Abraham, il va descendre et il va épouser une femme. Ici, on voit que c'est Yitzhak qui est allé l'amener. Et c'est Agar qui va réépouser. Et il va avoir des enfants. Et ces enfants ne seront pas les enfants juifs. Une flopée d'enfants qui sont des goyim. Pourquoi? Parce que Avraham, c'est Avramon Goyim, il est le père d'une multitude de peuples. Alors, il y a déjà une notion de plusieurs peuples avec les Bnei Yaakov, Bnei Israël. On voit que chacun va devenir un peuple. Donc, en réalité, le clan Israël est composé de 12 peuples. C'est d'ailleurs ce qui va inquiéter Yaakov Avinu. Yaakov, sur son lit de mort, il pense qu'il a échoué. Il dit, je devais normalement produire un peuple, et je vois, vous êtes 12 peuples. Et c'est là qu'ils lui ont dit, Shema Israël, écoute Israël. C'est vrai qu'on est des peuples différents, mais on a tous en commun que Hachem qui est Elokeinu, Hachem Echad, on est tous ma'aminim que Hachem est Echad. C'est clair, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils disent à leur père, c'est on n'est pas un parce qu'on est issu de toi, mais parce qu'on converge. C'est pas la naissance. C'est la convergence. On converge vers ce Hachem Echad, la manifestation de l'unité et l'unicité d'Hachem. Alors, je vous ai dit, il y a une obligation pour un père de marier son fils. Et si Yitzhak est désormais le patriarche, alors Avraham ne devient pas son fils, mais un patriarche, on peut comprendre. Un patriarche, il se sent une obligation de marier des gens qui sont à marier. C'est le patriarcat. En tout cas, comme dit Rashi ici, il vient de là-bas. Il était là-bas parce qu'il est allé chercher Agar. C'est intéressant. Lui, il n'est même pas encore complètement marié. Enfin, d'accord. Il est allé quand il a. Tout ce qu'il sait, c'est qu'Eliezer est en train de lui chercher une femme. Alors même, supposons qu'il ait une information qu'Eliezer a trouvée, mais il y a encore un travail, il faut quand même qu'il l'épouse. Elle est là, mais il ne l'a pas épousée vraiment. On va voir, revenir là-dessus. Il est déjà en train d'aller chercher une épouse pour son père. Et qui il va chercher Agar. Les Chazal disent que pourquoi est-ce que ça s'appelle Ktoura? Enfin, Ktoura, c'est l'encens, c'est le corban le plus élevé qui soit parce que il fait appel, enfin, il s'adresse à l'odorat. Et comme vous savez, l'odorat, c'est le seul des cinq sens qui n'a pas été abîmé par la faute d'Adam Arishon. Donc, quand Chava regarde le fruit de l'arbre de la connaissance bien et mal, alors elle le voit, elle pense qu'il a bon goût, qu'il est beau, enfin, etc. Mais on ne parle pas de l'odorat. Et donc, c'est pour ça que le summum des corbanotes, c'est un corban qui fait... Alors, à part ça, on peut aussi dire que c'est la chose la plus éthérée qui soit, la plus spirituelle qui soit. C'est le moins matériel, l'essence. L'encens, pardon. Et c'est aussi pour dire que la qualité de Hagar, bien avec tout ce qu'on a, tout le sucre qu'on a cassé sur son dos, en fait, elle est parfaite. Elle est tout à fait digne de reprendre la vie conjugale avec Abraham. Alors, bien sûr, sur cette histoire de Hagar, il y a un peu de problème, parce que quand Avraham a renvoyé Hagar avec Ishmaël, dans le pasouk, c'est marqué « Vatelech, vateta, bemidbar ber shaba ». Et Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est perdue, ou elle se perdrait, il y a les routes. Alors, elle s'est perdue, Rashi explique, elle s'est perdue parce qu'elle est retournée aux idoles de sa maison paternelle. Agar, c'est une fille de Paro. C'est une princesse que Paro a donnée en servante à Sarah. Ça fait partie probablement des dédommagements que Paro a donné à Sarah après qu'il l'ait kidnappée, là. Il a dit, il vaut mieux que ma fille soit servante dans la maison de Sarah plutôt que princesse à la cour d'Égypte. Alors, quand il l'a renvoyée, Abraham, a priori, Rachid dit qu'elle est retombée dans l'idolâtrie. Alors, comment est-ce qu'Abraham, maintenant, peut la reprendre comme épouse? Donc, il faut dire, quand on dit Chazra le Gilulé Bet Avia, quand on est retourné aux idoles de la maison paternelle, ça veut dire qu'elle a eu Marchava, ça l'a effleuré. Elle a eu une pensée. Tiens, peut-être que je pourrais revenir à. Mais néanmoins, elle est restée la fidèle élève de Sarah. Ce qui permettait à Abraham de la réépouser. Et on voit que on est obligé de dire qu'elle était parfaite, puisqu'ensuite, dans le texte, elle s'appelle Ktoura. On dit que Hashem c'est Naïm Maasea Ktoret. Sa conduite est aussi agréable que le Ktoret, que l'encens. Alors, le Rav Olbe disait là que, alors, pourquoi on utilise une formulation aussi forte que de dire qu'elle est retournée aux idoles de son père? Alors qu'en tout et pour tout, c'est une petite pensée, un peu. Alors, ça vient enseigner ici que La Torah, elle est Makpida. La Torah, elle demande des comptes, en fait. Même aux plus petits écarts. Si c'était simplement un petit penchant, voilà quoi. Elle s'est retrouvée complètement démunie. Elle est chassée de la maison d'Abraham. Où elle est? Ça, qu'elle s'est dit, mais peut-être je devrais retourner chez mon père. Elle n'a même pas pensé, je vais retourner à l'idolâtrie. Mais je vais où est-ce qu'elle va? Où est-ce que va une femme qui est renvoyée de la maison conjugale, en fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va retourner chez son père. Retourner chez son père, c'est-à-dire entrer, pas obligatoirement pratiquer l'idolâtrie. La fille de Paro, elle ne pratiquait pas l'idolâtrie, là, celle qui a sauvé Moshe. Mais se mettre dans cet environnement-là, c'est déjà, la Torah dit, une pensée comme celle-là, c'est déjà, pour la Torah, enfin disons, il faut entendre quand même toujours que tout ce qui est dit là sur les Avot, et tout ce qui tourne autour des Avot, il faut bien penser, on est, si vous voulez, dans la phase des fondations du peuple d'Israël. Et quand dans les fondations, il y a un tout petit écart, ça vous donne la tour de Pise. Une fois que la maison est déjà bien construite, bien avancée, s'il y a un petit écart, c'est moins grave. C'est pas bien, mais c'est beaucoup moins grave. Alors, c'est sûr que le Rav Volo, il disait ici, on voit bien qu'il y a un certain danger à étudier le Chumash. Parce que si on l'étudie de façon trop grossière au sens d'un tissu grossier, c'est-à-dire sans faire attention qu'on parle de choses extrêmement fines, on risque de se fourvoyer complètement. C'est le Ramban qui, lui, dit qu'on peut penser que cet endroit-là était devenu pour Yitzhak un lieu de prière, puisque là-bas, il y avait des malachim. C'est-à-dire qu'il y a là-bas un dévoilement. Alors, Yitzhak est sorti, il venait de là-bas, il est sorti pour prier, il prie dans les champs. Lifnot Erev, c'est le soir, et c'est à ce moment-là qu'il a levé les yeux et qu'il a vu que des chameaux étaient en train d'arriver. Et c'est marqué la soir, Vassadé, Rachidi, c'est la chantfila. Sicha, c'est un mot qui veut dire conversation, mais qui est effectivement un des mots qu'on utilise pour parler de la tfila. Il y a, d'une certaine manière, dans la tfila, un aspect conversation avec Hachem. On raconte de Rav Volbeck que quand il habitait à Yerushalayim, il allait donner des cours à une yeshiva à Kol Torah, puis ensuite à une yeshiva qui a été faite par un de ses élèves. Et en été, on fait mincha en fin d'après-midi. Et Rabbi, il ne faisait pas mincha avec la yeshiva, il allait à Minyan plus tôt. On peut prier à partir du moment où le soleil, c'est une demi-heure après midi, soleil est sur sa redescente, on peut prier Mincha. On peut prier Mincha jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil. Il y a des gens qui systématiquement prient tout de suite. Et a priori, dans la halakha, c'est mieux de prier plus tard. C'est pour ça que dans les Shivot, on priait plus tard, en été. En hiver, on ne peut pas parce que ça casserait complètement le temps de l'étude. Mais là, on a le temps d'étudier. À la fin de l'étude, avant d'aller manger le repas du soir, on pouvait faire mincha. Et lui, il disait, moi, je peux pas rester si longtemps sans parler avec Hachem. Puis la prière du matin jusque quasiment le soir, pas rester si longtemps. Une vraie conversation. Donc, ça s'appelle un des mots qui désigne la prière, c'est Sira. Et on dit Sira qu'il est allé la soir basadé. Il allait prier de cette manière-là. Pour lui aussi, ça devait être Sira. Donc, Yitzhak est arrivé dans. En général, on dit que ce type de prière, c'est plutôt le type de prière des personnes plutôt âgées. Lui, il était très jeune, mais il était déjà à ce niveau-là. Alors, lui, il lève la tête et il voit les chameaux. Et Rivka, elle lève les yeux et elle voit Yitzhak. Et Vatipol, mais à la gamale, on traduit en général, elle est tombée du chameau. Rachid dit, Rata auto ado, ve tavha, mi panav. Elle a été un peu effrayée. Quand il y a des grands personnages, sur leur visage, on voit déjà cette grandeur. Elle a vu une forme de doucha en quelque sorte. Et c'est important parce que ça va caractériser toute la relation entre Rivka et Yitzhak. Autant entre Sarah et Abraham, c'était un dialogue, des fois assez dur comme ça. Enfin, Sarah, elle parlait ouvertement, directement avec Abraham. Mais Rivka, elle ne parle pas avec Yitzhak. Elle ne parle pas, comme vous savez, quand elle est aussi prophétesse, et quand elle comprend quelque chose, elle ne lui parle pas, elle agit derrière son dos, quasiment. Alors, on peut comprendre, si vous voulez, que Yitzhak Avinu, il a fait une expérience que personne d'autre n'a jamais faite. Certains disent que sur le Mizbeach, quand Abraham l'avait attaché, il a changé de neshama. Les kabbalistes disent que Yitzhak avait à la naissance une neshama féminine, ce qui fait qu'il n'aurait jamais pu avoir d'enfant. Il était stérile. Mais dans la Akeda, il a changé de neshama. Et il a obtenu une neshama masculine qui lui a permis d'avoir des enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de...
Qu'est-ce qu'on entend par une neshama féminine ou une neshama masculine?
J'en sais rien, tout ce que je sais... C'est qu'une neshama féminine, c'est une neshama qui, a priori, quand elle est dans le corps d'un homme, elle ne permet pas d'avoir des enfants. Elle n'est pas en phase, en quelque sorte. Et une neshama masculine, quand elle est masculine dans un corps qui lui correspond, hein, ça lui permet d'avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que toute personne, toute femme qui serait stérile a une neshama masculine et tout homme qui serait stérile a une neshama féminine. On n'en sait rien, mais en tout cas, les kabbalistes, ils le disent comme ça. Non, mais il y a les deux. Tout le monde a les deux. Enfin, même génétiquement, etc., on a tous des deux, en quelque sorte. Il y en a un qui est dominant. Alors, bon, en tant que Donashama, personne ne dit que ça corresponde à ce qui est génétique ou, etc., corresponde à la Neshama. Mais les kabbalistes, qui eux, savent. Mais c'est pour ça que il a eu besoin, quelque part, la Hashgaha a fait que lui, il est arrivé, il a fait une expérience, etc. Et ça lui a permis de s'ouvrir, en quelque sorte, ou peut-être de sortir de cette disharmonie dont vous parlez. Il fallait mourir, quoi, d'une certaine manière. Pardon?
Donc là, dans cette phrase-là, ça sous-entend vraiment qu'il serait mort.
Non, on peut dire qu'il est mort, on peut aussi dire que une neshama, j'en sais rien, est-ce qu'on peut peut-être changer de neshama tout en étant vivant? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. J'ai peut-être appris ça une fois, mais je ne me rappelle pas. Mais effectivement, on peut penser que qu'il est mort parce que, si vous voulez, dans son père l'a tué. Son père, il a fait tout le travail intérieur pour le sacrifier, disons, pour pas dire tuer. D'accord. Et donc lui, il sait et il est complice. Enfin, il est d'accord avec son père que son père le tue. Alors peut-être, ce sont voilà. Il est mort, même si en fait, de facto, son père n'a pas eu besoin de le tuer. Mais et si vous voulez, si c'est comme ça, on peut aussi comprendre pourquoi finalement Sarah est morte. Parce que qu'on lui dise qu'il a vécu, blablabla, si son père voulait le tuer et que lui, il a accepté, ça veut dire qu'il était mort. Bon, ça veut dire que c'est pas simplement qu'elle n'a pas écouté la fin. C'est pour ça que le troisième midrash, qui dit que même si Yaakov, même si Yitzhak vient et lui dit je suis là et je te raconte, bah pour elle, il est mort. Son père l'a tué. Enfin, tué.
Rav, encore une question. Comment se fait-il que Avraham Avinu, il n'ait pas réussi à s'exprimer vis-à-vis de Sarah, par rapport à la Akeda, et aussi par rapport à son père, quand il est parti, et cet abandon dont on parle.
Le problème, c'est que s'exprimer, il a reçu une voix dans les deux cas, que ce soit l'Ech Lecha Lech Lecha Me'artsecha ou le Lech Lecha Le'Amoria, c'est toujours un Lech Lecha. Et il y a un Lecha dedans, c'est pour toi, c'est toi que ça concerne. Bon, il s'est peut-être dit que bon, si Sarah, qui est très grande en voix, n'a pas reçu le message, c'est que peut-être le message n'est pas pour elle, et il a peut-être pensé que il pourrait le faire après. Et s'il allait faire la shrita de son fils, il allait bien devoir raconter quelque chose à Sarah quand il va revenir et qu'il sera que n'est pas là. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, qu'est-ce que je vais lui raconter. Il s'est peut-être dit, je n'ai pas besoin de réfléchir à ça. C'est pas, pour l'instant, je dois faire ce qu'Hachem me demande de faire. Après, ben, Hachem m'inspirera. savoir qu'est-ce que je... Ou alors c'est Hachem qui dira, qui le lui dira à Sarah que c'est lui qui m'a ordonné de le faire.
Ils ne sont pas sur le même plan.
Non, ils ne sont pas sur le même plan. On n'est jamais sur le même plan quand on a une voix et que l'autre ne l'a pas. Même en termes de sagesse, de chokhma, quand vous savez quelque chose et l'autre ne sait pas, vous n'êtes pas sur le même plan. Pour nous, il apparaît que moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit, ben, dis-le à Sarah. Mais bon, ça ne veut rien dire.
Raph, par rapport à la Kedat Yitzhak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, en fait, quand il change de neshama, il meurt. Et donc, sa mère, elle ne reconnaît pas la neshama de son fils quand elle le revoit. C'est un peu ça qui est...
Elle ne le revoit pas, mais dans le Midrash...
Dans le Midrash, oui.
Bon, vous pouvez dire qu'elle ne reconnaît pas sa neshama, ou... peut-être que c'est plus simple que ça, c'est simplement les mots. Les mots, Abraham est en train de sacrifier Yitzhak, c'est des mots qui étranglent Sarah. Et ce qui me dérange, si vous voulez, le plus dans toute cette affaire, c'est que si on dit que Sarah est morte comme ça, ça veut dire que la dernière image verbale, en tout cas, qu'elle a d'Abraham, c'est d'Abraham qui tue son fils. Je me dis quand même, mourir avec cette... C'est une image verbale, elle ne l'a pas vue. Mais elle meurt avec ça. C'est complètement fou, quoi. Ils ont vécu ensemble, ils étaient... Bon, il y a eu... Bon, comme je vous ai dit, il y a eu quelques moments où ça devait être un peu tendu. Mais... Et partir avec une image comme celle-là, ça me paraît terrible, tout simplement terrible. Surtout que il l'a pas fait finalement.
On est dans le terrible, c'est terrible qu'Abraham, c'est terrible qu'Hachem ait demandé ça, c'est terrible qu'Abraham ait à faire ça, c'est terrible qu'Isaac ait à vivre ça. C'est pas de référence, tout ça, un peu pas. D'un autre côté, Sarah, elle est habituée à ce que son mari ne lui parle jamais.
Sarah, il lui parle tout le temps.
Sarah parle, mais Abraham, est-ce qu'il parle?
Non, il répond.
Abraham, c'est des politiques. Mais ce qu'il a à faire, il le fait. Parce que vous dites, quand il lui dit, tu diras que tu es ma soeur, et on a retrouvé après des explications annexes ou connexes, c'est quand même. Pas rigolo, parce que le roi, le pharaon, là, en attendant, il était entre ses mains. Il faut y avoir des explications et tout. Si on vit la situation sur le terrain, comme ça brute de forme, ça aussi, c'est pas facile.
Ben, bien sûr, le Ramban, il tombe à bras raccourcis sur Abraham Avinu.
On le dit, tous les ans, on le répète.
Je vous ai dit, hein, le Ramban. Vous pensez comme le Ramban. Moi aussi, d'ailleurs. Oui. Le Ramban, il dit que c'est extrêmement grave. Le Ramban, il met sur le dos d'Abraham tout le galout de Mitzrayim. Parce qu'il est allé en Mitzrayim, nous aussi, on est allé en Mitzrayim. Et plus encore, si vous voulez, je l'ai dit au Shiur, non? Au Shiur sur le Chumash. Parce qu'Abraham n'a pas fait lui-même l'histoire de l'eau, c'est incroyable. Tous les galouillottes dépendent de ça, quoi. Parce que il n'a pas servi lui-même l'eau. Bien entendu, encore une fois, là, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on est dans la phase fondation. Bon, aujourd'hui, si vous faites servir par par des serviteurs aux invités, on ne va pas vous en vouloir de ne pas les avoir servis par vous-même. Alors maintenant, peut-être en termes de DRS, je ne sais pas, mais il y a des probablement, je ne sais pas si en France, le savoir-vivre français permet aux maîtres de maison de se lever pour servir les invités. Bien, s'il y a des serviteurs, je vois mal la reine d'Angleterre se lever pour aller servir les invités. Mais pour nous, ça a un sens. Pour nous, on peut dire, Avram, il l'a fait, donc c'est un modèle. Ça a un sens que le maître de maison se lève à un moment, il va pas que le maître de maison, éventuellement, serve. Alors, ça se fait des fois pour les alcools ou des choses comme ça. C'est bon, quelque part, c'est fait partie des choses qu'on peut faire. Bien, et puis ensuite, on a l'amant de Sarah, et maintenant on va passer à l'amant d'Abraham. Abraham aussi va mourir, et là on nous apprend que Ishmael a fait tshuva. Parce que là on nous dit que Ishmael est venu et qu'il a laissé la première place à Yitzhak. C'est-à-dire qu'il a reconnu que le véritable héritier d'Abraham, c'est Yitzhak. Et puis ensuite, il y a le problème de l'héritage, le fameux problème de l'héritage. Alors, on nous dit effectivement, Vaïten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Il a donné tout ce qui était à lui, il l'a donné à Yitzhak. Velivne apilakshim, asher l'Abraham, et les enfants des concubines d'Abraham. Alors, les fameuses pilakshim, le mot pilakshim, chez nous, il est écrit entièrement avec deux yut. Mais Rashi, il dit que chaser ktiv. Rashi, je ne sais pas, c'est un des grands problèmes. Rashi dit que lui, il avait une version dans laquelle le deuxième yud n'y est pas. Et pour nous dire justement qu'il n'avait qu'une seule pilagesh. Il n'avait qu'une seule concubine, et c'était Hagar, Ktura. Et là-dessus, Rashi nous explique qu'est-ce que c'est la différence entre une femme et une pilegesh, Isha ou pilegesh, c'est-à-dire une femme est, je traduis par concubine, mais vous allez voir que c'est peut-être pas la bonne traduction, parce que les nashim, c'est qu'elles ont un ktuba. Et les pilakshot, c'est belo ktuba. C'est-à-dire, il n'y a pas de ktuba. Elles n'ont pas de ktuba. Qu'est-ce que l'on parle? La ktuba, c'est un acte de reconnaissance, comme un espèce d'acte de reconnaissance de dette que le khatan donne à la kala, dans laquelle les témoins écrivent qu'ils ont vu comme Toto a épousé Marinette et qu'il lui a donné donc des kiddushin, il lui a dit arrête Kudeshet, et il s'est engagé à faire pour elle tout ce que les maris juifs ont l'habitude de faire, on énumère, etc. Et il donne comme garantie tous ses biens. C'est-à-dire que la ktouva, c'est une hypothèque de premier rang, c'est-à-dire que elle va être payée avant tous les autres créanciers. C'est un certain montant, et il y a un montant qui est fait pour que les gens ne divorcent pas à la légère. Parce que comme ça leur coûte, ils ne divorcent pas si rapidement. Alors la pilégèche, justement, la différence, c'est que une pilégèche, c'est tu veux plus, on arrête. Quoi. Et les deux côtés sont sur le même plan, c'est une espèce de... Ils vivent ensemble, d'accord, on est d'accord. S'il y en a un qui veut plus, ben ça s'arrête. Il n'y a pas de ktouba, etc. Ça. Alors, c'est assez problématique parce que si on dit que c'est Agar, alors que à la fois Sarah, quand elle a donné Agar, elle la lui a donné comme épouse, j'ai déjà parlé de ça, et ici, il sera quand il est allé la chercher, il est allé la chercher pour la lui donner comme épouse. Et là, tout à coup, elle est présentée comme Pilegesh, la seule Pilegesh d'Abraham, mais en fait, seulement une Pilegesh, comme si il n'y avait pas là de Ktouba, c'est tout. Rashi a l'air de dire que ça se résume à un problème de facilité de séparation. Une femme, c'est plus difficile de s'en séparer parce qu'il y a une Ktouba. Une Pilegesh, tu veux te séparer, et ou si elle veut partir, elle peut partir aussi.
Les enfants, ils sont quoi,
Patia
Palmaria?
Pardon?
Les nouveaux enfants. Les enfants de cette.
Ils sont cachers.
C'est cachère, ça. Donc, une concubine, c'est un vrai statut.
D'après ça, la concubine, c'est un vrai statut. Ah oui, oui. Non, non, c'est pas. C'est pas. Quoi?
C'est pas une maîtresse.
Ben, ça dépend, il y a des maîtresses qui ont la Pompadour ou, je ne sais pas, Madame de Maintenon. Et...
Donc pour moi, il y a l'épouse et puis la femme d'à côté, elle est un peu sur un siège éjectable.
Oui, mais une pilagèche, elle est aussi un peu sur un siège éjectable, mais lui aussi, il est sur un siège éjectable. Elle peut aussi partir.
Oui, c'est parce que je veux revenir aux enfants de faire l'héritage.
Les enfants, ils auront un héritage, mais là, Avraham, il a, quand on dit qu'il a donné, il a tout donné. En héritage, normalement, l'héritage, sur l'héritage, on n'a pas de poids. Tu peux donner avant l'héritage et dire, voilà, je donne de mon vivant, j'écris, je fais un écrit par lequel je donne à ma mort, et ça sera à ma mort, ça et ça. Mais c'est plus, c'est pas l'héritage. L'héritage, c'est une loi de la Torah. Qui dit que ça coule directement du père vers le fils, et sans qu'il y ait de formalité, et sans que le père ne puisse rien dire. Il peut pas rien dire. C'est, s'il y a un fils, il hérite tout. S'il y a plusieurs fils, alors, ils héritent tous, sauf que l'aîné, s'il était né, s'il est le premier à ouvrir les voies basses, pas un aîné qui serait, par césarienne, etc., il aura la double part. Et les filles n'héritent pas en présence des enfants, mais si elles sont seules, elles héritent. En présence des garçons, mais si elles sont seules, elles héritent. Et pourquoi elles héritent pas? Parce qu'elles sont dotées.
Alors, la Torah nous précise qu'Abraham a donné ce qui lui appartient, je crois que c'est la Torah,
oui.
Ce qui lui appartient. Ça veut dire cette différence qu'on fait là dans le texte. L'aîné, c'est écrit dans la Torah.
Non, mais là, c'est pas du tout. D'abord, il n'est pas l'aîné, il sera. Il lui a donné, c'est ce que je vous dis. Il lui a donné de son vivant. Alors, c'est une donation, comme on fait à un enfant, mais on lui dira, mais tu en bénéficieras quand je ne serai plus là. Ah, il a tout donné à Yitzhak. Alors, s'il a tout donné, la question, c'est qu'est-ce qu'il reste à donner aux autres? Comment on peut avoir une phrase dans laquelle on dit il a tout donné, d'accord? Puis ensuite on dit non, mais il a donné aussi aux autres.
Il a donné à Ismaël le secret de la magie, je
ne
sais pas ce que ça veut dire.
Non, à Ismaël, oui. Oui, oui, c'est juste. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Alors, Vaïten Avraham et Kol Asher Lo de Yitzhak, il a donné tout ce qui était à lui, à Yitzhak. Velibne Apilakshim Asher Le Avraham. Donc, les concubines, je vais traduire Apilakshim par concubine, c'est peut-être pas la bonne traduction, d'Avraham, il leur a donné Matanat, des cadeaux. Et il les a renvoyés go east, ouais, et pas ouest. Il les a envoyés vers l'est. Donc, seul est le vent, quoi.
Les Japonais.
Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur a donné des matanot? Pirshu Rabotenu, dit Rashi, nos maîtres ont enseigné Shem Touma, Masar Lahem. Il leur a donné le nom de la Touma. D'abord, après, autre chose, Mashinitan lo alodot Sarah, Shar Matanot shinatnu lo, Akol Natan Lahem, Shelorasa Lehenot Mehem. Alors, il y a, d'abord, j'explique la deuxième explication. Avraham, c'était un personnage public. Et donc, en tant que tel, il y a plein de gens qui lui ont fait des cadeaux. Parce qu'ils voulaient être dans les bonnes grâces d'Avraham. Y compris ce que Paro a donné, ce que Avimelech a donné, etc. C'était les diamants de Bokassa. Bon, pour celles qui sont trop jeunes, passez à la suite. D'accord? Alors, il y avait une armoire chez Avraham Avinu, un coffre fort, dans lequel il a mis tous ces cadeaux-là. Ces cadeaux-là, c'est tout à fait avec ce que je vous ai déjà souvent expliqué sur la volonté d'indépendance des Avot. Donc ça, il ne voulait pas construire le clan d'Israël avec des choses qui lui ont été données par des gens qui étaient obligés de le lui donner. Donc il ne veut pas construire avec des choses qui ne sont pas complètement à lui. Mais c'était vraiment à lui, alors il l'a donné à ses enfants, aux enfants avec lesquels il n'a pas l'intention de construire le clan d'Israël. Parce que c'est pas des Juifs. Mais avec Yitzhak, il veut construire, il lui donne Kol Asher Lo. Ce qui était vraiment à lui, il l'a donné à Yitzhak. Pour construire le clan d'Israël. Et maintenant, Shem Touma. Pour moi, ça veut dire le nom de quelque chose, dans la Torah en tout cas, ça vous dit l'essence de la chose. Pour nous, les noms, c'est en général des conventions. Mais dans la Torah, les noms reflètent la chose. C'est, si vous voulez, c'est comme si on disait ça a la même fréquence, si on attache des fréquences aux lettres qui composent les mots, donc aux mots, c'est à la même fréquence que l'objet en question. C'est pour donner une image, quoi. Et par conséquent, si on donne le nom de la Touma, Touma, ça veut dire idolâtrie, etc. Donc, il a démonté, si vous voulez, les idoles. D'accord? Ça veut dire que pour eux, on pouvait pas les séduire en leur racontant des histoires au sujet des idoles, parce que pour eux, les idoles, c'était comme si vous avez un très beau cadeau, un réveil matin, ou je sais pas quoi, mais seulement il est en pièces détachées. Alors vous avez plein de petits trous, et plein de petits écrous, et des vis, et des machins, etc. Et puis une pile, etc. D'accord? Voilà. C'est ça. Alors, bon, c'est, quand tu décomposes, ça perd tout son charme. D'accord? C'est que la même chose qu'il y a des plantes qui supportent pas la lumière. Et on dit que, bon, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que le charme ou le, etc., des femmes, c'est aussi quelque chose qui ne supporte pas une certaine lumière. Sinon, c'est plus, bon, c'est dégradant. On peut mettre certaines choses en pleine lumière. C'est dégradant parce que ultimement, c'est comme un corps humain, même si c'est le corps de n'importe qui de très grand, c'est jamais qu'un peu de graisse, un peu de poil, un peu d'eau, un peu de... C'est tout, quoi, un peu des os. Si tu décomposes la chose, ça perd tout son charme. C'était une des raisons pour lesquelles, quand on démontait le Kodesh HaKodashim, personne n'avait le droit de voir. Et donc, au fond, s'il leur donnait ça, c'est les mettre à l'abri de l'idolâtrie. On comprend bien que ce soit une chose très importante pour Abraham que ses enfants ne soient pas des idolâtres. Ce n'est pas des Bnei Israël, mais pas des idolâtres. Voilà, je m'excuse.